Troisième jour de tournage du Testament d'Orphée. Horaire 20h, 4h30. Décor, la halte gitane. Plan 80 à 88. Acteurs, Jean Cocteau, Philippe Jusot, le premier homme cheval, Alice Sapritch, la première gitane, et Yoyotte, deuxième gitane. Yoyotte est aussi la monteuse. Sur la feuille de régie, je lis Silhouette, la mère qui allaite avec son bébé, le joueur de guitare avec sa guitare. Accessoires, peigne et étrille pour homme-cheval, jeu de tarot, petite table, deux chaises et tabourets, caisse pour servir de siège, légumes à éplucher, couteau de cuisine, bassine, torchon, marmite, soupe, feu de bois, prévoir tas de bois, linge qui sèche, fagot, seau d'eau, photographies qui brûleront rapidement, conserver les morceaux de la photographie qui joueront au numéro 97. Assis sur une marche de la roulotte, un gitan joue de la guitare. Un gamin d'une dizaine d'années, les mains sur les cuisses de son père, a enfoui son visage dans les jambes du guitariste. Le gamin écoute sans lever la tête, puis, tout d'un coup, il commence à chanter.
Les gitans s'installent tout de suite comme s'ils avaient vécu depuis 15 ans, 50 ans dans le lieu où on les place. Tout de suite, ils font la cuisine, ils mettent des lits, les gosses dorment. Et je suis arrivé 2 heures après leur installation et j'ai eu le sentiment qu'ils avaient vécu toujours là.
Quel est le rôle des gitans ?
Ils jouent un rôle, le même rôle que les autres. Ségeste, c'est-à-dire mon fils adoptif, Édouard Dermite, réapparaît dans ce film dans son rôle de Ségeste, le rôle qu'il avait dans Orphée. Dans Orphée, je l'abandonne dans ce qu'on a nommé la zone, c'est-à-dire un endroit qui n'est ni la ville ni la mort, et là, il réapparaît. Eh bien, dans cette halte gitane, une gitane le fait sortir sa photographie du feu. Elle la porte à une autre gitane, qui est Madame Anoto, qui la déchire en morceaux. Elle me donne ses morceaux et je m'éloigne et je vais au bord de la mer et je jette ses morceaux à la mer. Et l'ermite, c'est-à-dire ses gestes, sortira de la mer et c'est lui qui m'entraîne vers ce lieu où je l'ai mis.
La gitane, Alice Sapritch, tire sur son fume-cigarette et regarde la photo de ses gestes. Cette photo que, dans un autre plan, elle déchirera et dont elle tendra au poète les morceaux. Pour l'instant, le poète se trouve derrière la caméra.
Moteur, oui, la guitare. Tu peux jouer en basse, très bas. Oui.
Alors, Testament, 87, deuxième.
Coupé.
Très bon. Il baisse la main. Il n'a pas baissé la main.
Baissez.
Non, il n'est pas
bon. On va recommencer.
Pourquoi?
Ah bon, ça va nous gêner.
Ça gênait pour l'insert. Elle n'avait pas baissé la main sur le coupé.
Ah oui, mais elle a bien envoyé sa fumée. Voilà. C'est dommage. Hein? Elle sait comment elle fera. Voilà. Tu sais comment. Quand on voit ta fumée, c'est très joli. Moteur.
Oui. Chut, silence. Madame, un peu plus vers nous le visage. En rien. Oui. Hop. Là. Voilà.
Spécial effect. Merci. Oui. Moteur.
Alors. Testament 87, troisième.
Coupé. Très bon.
La fin de la première, puis celle-ci.
Premier essai.
Mais oui. Voilà. Un et trois.
Non. La quatre essais. Bon. Oui, j'aimerais que vous envoyiez votre fumée très fort à la avant que je dise arrêter.
On le refait une autre.
On le refait une autre fois, pardon. Alors, retardez, non, laissez-les. Oui, juste quand vous regardez l'image. Pop.
Ah, oui,
Vous respirez avant et quand vous regardez l'image, j'ai envoyé dessus.
Ça nous fera un raccord sur la photo.
Oui, excellent. Et... Oui. Moteur, mes amis, moteur.
Mettez du bois dans votre.
Regardez pas vers nous, hein, madame. Voilà.
Non, vers moi. Et vous parlez avec votre ami. Moteur, annonce.
Testament, 87, 4e.
Joue la guitare. Moteur. Coupé, je veux dire.
Coupé, voilà. C'est très bon.
J'étais...
Et une belle fumée.
Très jolie. C'est très bon.
C'est très joli.
C'est très bon, ça. Voilà. J'étais ailleurs, je m'excuse. C'est un sujet. C'est très bon.
Tout le monde vous a compris, d'ailleurs.
Je sais. Merci.
Pardon de vin, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Gardez vos places. Il y a une photo.
L'humidité est terrible. Elle traverse vêtements et couvertures jetées sur les vêtements. Les feux de bois brûlent mal et font beaucoup de fumée. De nuit, ce campement gitan est extraordinaire. Les feux, les marmites fumantes, les couleurs vives des jupes, les cris des enfants et des vieilles qui font sans relâche du café, les guitares, la roulotte verte, les lits de plumes, se marient étrangement avec les câbles, projecteurs, caméras, appareils, machinistes, techniciens et acteurs déguisés en gitans. L'homme cheval se promène là comme chez lui, sans que sa queue noire ou la tête de cheval qu'il tient sous le bras ne fasse l'étonnement de personne.
Jean Cocteau, pourquoi ne tournez-vous pas le testament d'Orphée en couleur ?
Je me suis beaucoup demandé si je ferais mon film en couleur. J'avais une pente vers le noir, vers l'écriture, vers l'encre, l'encre visuelle, et c'est en fin de compte Cartier-Bresson qui m'a convaincu. La couleur me desservirait. À l'encontre de la peinture, elle s'oppose à l'abstraction des films, à leur espèce de clair de lune. En août, on attendrait de moi quelques surprises en ce domaine, or ou bien je tournerais la couleur exacte et je tomberais dans le carte-postalisme, ou bien je la truquerais et l'œil sera distrait au maléfice de l'esprit. Pour la couleur, il faut posséder les antécédents de mon ami Renoir. Mon style exige beaucoup de subterfuges et de chocs, une grande souplesse chez l'opérateur et chez son caméraman. La couleur les en empêcherait puisqu'elle les oblige à résoudre des problèmes d'un autre ordre, à tripler les lumières, à faire que les mouvements soient moins rapides. Enfin, je n'ignore pas les dangers courus par une bande et qu'on ne sait pas ce qui peut lui arriver en route. Baisse des volumes du son, coupure, erreur dans l'ordre des bobines, mais la couleur exige une surveillance des copies dont je m'avoue incapable. Cinématographe n'étant pas mon vrai métier et mes autres besognes ne me permettant pas cette surveillance de laboratoire. Testament d'Orphée étant un film austère et sans pittoresque, j'estime que la couleur ne lui ajouterait rien.
Que signifie votre titre ?
Eh bien, mon film n'a aucun rapport avec le titre qu'il porte. Le Testament d'Orphée signifie que c'est mon dernier film, analogue par la liberté de son style à mon tout premier film, Le sang d'un poète. J'y interprète mon propre rôle, car je désapprouve ces films documentaires qu'on nous propose sans cesse et qui passent pour raconter la vie des artistes. La mienne est inracontable, elle est trop fertile en méandres et en obstacles. Les films sur Colette, sur Gide, sur Mauriac, ne correspondent pour moi en rien à leur figure, leur figure profonde. Il me semble plus vrai de laisser aller l'esprit entrouvert, comme lorsqu'on somnole devant un feu de bois, et de donner corps aux vagues images qui s'enchaînent en nous sans le moindre fil d'Ariane. Ce n'est ni la veille, ni le sommeil, c'est cet état second. État second si favorable au mariage du conscient avec l'inconscience, mariage dont nos œuvres sont la progéniture, j'allais dire les monstres.
Jean Cocteau, que rêvez-vous que votre œuvre soit ?
Bien, vous savez, comme j'ai répété souvent, je ne suis pas un spirite, je suis un ébéniste, je fais une table, alors Je n'ai pas beaucoup de temps de rêver pendant mon film. Le film a peut-être une allure de rêve, mais moi, je n'ai pas le temps de rêver. Une œuvre est belle, une œuvre devient chef-d'œuvre lorsqu'elle n'a plus l'air d'avoir été faite par quelqu'un. Mais quand elle a l'air d'être un phénomène de la nature, analogue aux taches des papillons, aux nervures des feuilles, aux raies du zèbre et du tigre. Le concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach se désindividualise à force d'exprimer l'âme de son époque. Et quand Munzinger l'a joué dernièrement à Menton, j'ai été stupéfait. Je me suis aperçu que j'oubliais complètement que c'était de Bach. C'était comme une époque qui s'exprime. Et, n'est-ce pas, il poussait devant mes yeux et pour mes oreilles comme les branches d'un arbre ou comme les bois d'un cerf. Mon rêve serait qu'on ne puisse me reconnaître à travers mon film à cause de mes tics et de mes mythes. J'aimerais ne pas la signer et qu'il réponde à ces questions profondes que se pose le public sans même se rendre compte qu'il se les pose. Mais hélas, il est presque surhumain de se désindividualiser à force d'individualisme. Voilà le tour de force le plus complexe, la récompense qui devrait couronner une longue vie d'études.